Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Nous allons commencer les réjouissances par un petit retour en arrière sur l'émission de samedi dernier, laquelle a subi quelques problèmes de programmation et a été écourtée. Je vous rappelle donc que la semaine dernière, nous avions fait l'émission « Notre affaire à tous », l'histoire du parcours d'une grande juriste dont le nom vous est révélé à la fin de l'émission. Elle fut substitut, procureur, juge pour enfants et juge spécialisé dans les affaires de corruption. Vous avez trouvé ? Non ? Eh bien alors écoutez ! Voilà, nous retournons donc à notre affaire à tous pour un petit quart d'heure. Aujourd'hui encore, j'assure régulièrement certains samedis une permanence comme juge d'instruction au tribunal de Paris. Je replonge alors dans le bain de la criminalité quotidienne. Je me rends compte à quel point un peu de recul est nécessaire pour dédramatiser certaines situations. J'ai vu ainsi passer des réquisitions de mandat de dépôt pour un sportif au casier judiciaire vierge, sur le point de partir s'entraîner à l'étranger avant une grande compétition. Il était accusé d'avoir falsifié un chèque de 6 000 francs. L'emprisonnement m'a paru disproportionné par rapport au délit. Je l'ai mis sous contrôle judiciaire, avec obligation de s'entraîner et de gagner. Une autre fois, un substitut a demandé l'emprisonnement d'un Polonais qui était au chômage après 20 ans de travail dans un chantier naval à Dunkerque à cause d'un témoignage, par ailleurs contesté, d'exhibitionnisme. Ce SDF n'avait pas de casier judiciaire et était sous dialyse. J'ai estimé que le substitut allait trop loin. Au début de ma carrière, j'aurais sans doute laissé faire. C'est cet arbitrage permanent et incertain qui est au cœur de la fonction de juge.
Thank you.
La machine judiciaire est en surchauffe. L'engorgement de la justice a donné lieu à plus de 120 rapports en 25 ans. Peu ont été suivis des faits. Pourtant, l'urgence est évidente. Le nombre des magistrats est le même qu'à l'époque de Madame Bovary. Autant des batailles d'héritage et de bornage. Et en 2023, je suppose que c'est encore pire. Or, la criminalité augmente et le Parlement vote chaque année 1000 nouveaux textes, assortis d'autant de nouvelles sanctions. La charge de travail des magistrats est exponentielle. On leur demande tout à la fois. Traiter la délinquance de zones entières qui échappent à l'ordre public, réduire le nombre de morts sur la route, enquêter sur les blanchiments d'argent quand des cabinets de juristes conçoivent des montages merveilleusement sophistiqués, instruire des poursuites aussi complexes que l'affaire du sang contaminé. La société moderne est en transformation perpétuelle. La science et la révolution technologique font apparaître de nouveaux délits. Pourtant, la justice est censée absorber ce flux de travail impressionnant, sans moyens humains et matériels correspondants, par l'opération du Saint-Esprit républicain. Les chiffres sont là. 55 000 affaires jugées en cour d'appel en 1972, contre 205 000 en 1998. 180 000 dans les tribunaux de grande instance en 1972, contre 640 000 en 98. Dans presque toutes les juridictions, la somme des affaires traitées a été multipliée par 2 ou par 3 en 30 ans. Avant la réunification à population équivalente, l'Allemagne comptait 20 000 magistrats, y compris les procureurs, contre 6 000 seulement en France. À Évry, le tribunal faisait uniquement face à ce qu'on appelle dans les administrations le TTU, le très très urgent. Chaque année, de nombreuses plaintes sont classées sans suite, faute de moyens. De 66% en 86, on est passé à 80% en 95. Affaires classées sans suite. 80%. Les magistrats doivent faire des choix en laissant se développer chez les victimes abandonnées à leur sort un sentiment d'iniquité. Or, la justice a une obligation de résultat comme un service public. Nous devrions pouvoir traiter rapidement et efficacement toutes les affaires simples qui se présentent. Vous êtes bien sur Canal Sud. Merci à vous. Et c'est contre-histoire. C'est au parquet que revient l'arbitrage des affaires en fonction de la gravité du délit et parfois des ordres du gouvernement. Parce que le gouvernement peut, selon l'article 36 du Code de procédure pénale, enjoindre par instruction écrite d'engager des poursuites. La pratique historique a surtout été des instructions verbales de ne pas poursuivre ou de retarder les poursuites, ce que les textes ne prévoient pas. Ce qui permet beaucoup de choses en cachette. À cette époque, à Évry, il n'y avait pas d'affaires politico-financières à l'instruction. Nous étions libres d'agir en conscience. Je travaillais en bonne intelligence avec les juges d'instruction. Lorsque l'enquête était terminée, il me restait à traduire en termes juridiques les crimes ou les délits établis par le juge. Je devais décider, par exemple, si, selon les éléments contenus dans le dossier, il s'agissait bien d'un viol au sens de l'article 222-23 du Code pénal. Un procureur doit faire coïncider la réalité du crime ou du délit, toujours complexe et parfois inattendu, avec le cadre étroit du Code pénal. Par ailleurs, nous avions 6 audiences correctionnelles par semaine, des audiences du tribunal de police, la participation aux commissions d'application des peines en prison, les sessions de cour d'assises. Régulièrement, je devais me rendre à Fleury-Mérogis. Là encore, je découvrais une institution à deux vitesses. Une partie restait archaïque, avec encore quelques surveillants de prison, qui restaient la caricature du genre, minée par le sentiment d'être enfermée avec les détenus dans cet univers glauque. Mais on trouvait aussi de jeunes surveillants, des éducateurs, des médecins, des directeurs de prison qui se battaient, avec peu de moyens et beaucoup de convictions. En Norvège, les condamnés attendent qu'une place se libère pour purger leur peine. Je répète, ça vaut la peine. En Norvège, les condamnés attendent qu'une place se libère pour purger leur peine. En France, le surpeuplement et la promiscuité indigne que j'ai découvert à cette époque n'ont fait que s'aggraver, et ça continue. La prison française n'a pas fait la révolution culturelle qui a transformé les hôpitaux psychiatriques. Je garde un souvenir particulier du cérémonial des assises qui reste la clé de voûte du système pénal. Les assises sont un des hauts lieux de la vie démocratique. Elles placent les citoyens au cœur de la justice. Ce rituel est d'une grande rigueur. Le tribunal y consacrait des heures de préparation et d'audience qui mobilisaient les magistrats. Dans les dossiers que je suivais, je trouvais passionnant le récit du passage à l'acte, du moment dramatique où tout bascule. Chaque audience avait sa dramaturgie. Lorsqu'il s'agissait de juger un crime passionnel, la tension était souvent retombée depuis les faits. L'homme était dégrisé. Il avait pris la mesure de son acte. Entre 5 et 30 ans de prison, où placer le curseur des réquisitions? Les jurés étaient confrontés pour la première fois de leur vie à un meurtre ou à un viol. Ils avaient tendance à écouter l'avocat général parce qu'il représentait l'institution et le savoir. La justice d'assises me donnait le sentiment d'être à ma place, alors qu'en requérant en audience de flagrant délit des petits dealers multirécidivistes, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au patron du réseau qui, pendant ce temps, encaissait des sommes d'argent considérables sans être inquiété. J'étais sensible au contexte des banlieues dures. À mon corps défendant, je cautionnais une justice à deux vitesses. En cour d'assises, ces scrupules disparaissent. Nous ne jugeons que des braquages, des viols ou des meurtres. Pour l'étrangère que je suis, exposée au lapsus dans les moments de forte émotion, se lever pour requérir dans le silence assourdissant de la salle constituait un moment impressionnant. Les mots avaient un poids que tous les protagonistes pouvaient physiquement sentir. Je voulais éviter que ma parole ne soit humiliante ou vexante. La plupart des accusés avaient reconnu leur crime et étaient conscients de sa gravité. Je voulais qu'ils se sentent écoutés et jugés avec équité. Lorsqu'un homme risque de passer 5 ou 15 ans en prison, il a le droit de s'exprimer. C'est toujours Contre Histoire sur Radio Canal Sud 92.2. Voilà, je vous ai transmis, j'espère, le principal de ce livre qui s'appelle Notre affaire à tous. C'est effectivement notre affaire à tous. Il y a encore 150 pages superbes, très émouvantes, et pour lesquelles je n'arrêterai jamais sans doute de tirer le chapeau que je n'ai pas à cette grande dame. Comme elle a écrit beaucoup de choses, j'essaierai de revenir encore une fois sur une nouvelle émission qui illustre le personnage formidable d'Eva Joly, que vous avez reconnu sans doute.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler.
Nous restons en compagnie d'Eva Joly, dont le nom reste attaché à l'affaire Elf. Puisque c'est cette éminente juriste passionnée d'équité et de démocratie qui envoya au tapis, sans jeu de mots, tous les acteurs de cette énorme affaire d'État de corruption et de détournement de fonds. Eva Joly nous présente donc les acteurs de ce grand guignol de la Ve République. L'infiniment grand a rétréci. L'imposante bâtisse de la justice, naguère si vaste, si méprisante et autoritaire, me paraît soudain poussiéreuse, toute petite et sans armes, face à la délinquance financière depuis longtemps mondialisée. Ce n'est plus qu'une institution soumise, qu'on somme aujourd'hui de condamner quand la jeunesse s'échauffe, mais qu'on somme de se taire quand elle ébranle les hautes sphères de la République. La banlieue brûle, c'est la faute aux juges trop laxistes. L'élite vacille sous le poids des secrets et des arrangements révélés. Mais pour qui se prennent ces juges qui sèment ainsi la pagaille? La magistrature est devenue un corps faible, où il vaut mieux fuir les élévations et les honneurs, rester un juge des enfants, un substitut ou un juge d'instruction, si l'on veut tenter d'agir encore sur le réel. Je sens toujours sur moi le regard trop confiant des tout-puissants convoqués là. Rien ne pouvait leur arriver. Ils avaient gagné tant de batailles politiques ou financières, connu tant de retournements. Ils étaient devenus si importants. Ils n'avaient pas tort avec leur certitude, car rares étaient alors les dossiers ayant abouti à des condamnations. L'affaire Elf fut l'une des rares menées jusqu'au bout. Mais combien ont purgé leur peine? Combien ont payé leurs amendes? Combien ont été redressés par les services fiscaux? Le grand édredon des élites françaises a amorti le coup. La République sait distribuer des passe-droits, les coups de pouce et les aides fraternelles. Avec le temps, mon souvenir a creusé la galerie des insoupçonnables, inaltérables, en un mot, des invulnérables. Hommes ambitieux et pressés, faisant carrière en politique ou dans les affaires. Leur arrogance, leur façon de m'opposer leur titre reposait sur une foi absolue dans l'opacité du système. Leur certitude n'était d'ailleurs pas toujours fonction de leur grade. 40 ans d'histoire des paradis fiscaux parlaient pour eux. Jamais le Liechtenstein, le Luxembourg ou la Suisse n'avaient jusqu'alors collaboré avec la justice. Échappés de dossiers divers, ils avaient en commun le sentiment fort de l'impunité.
Et la justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes et républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État.
Il y a le poète François Léotard qui entre dans son costume sombre entouré de 2 avocats. Nous sommes dans le bureau de Laurence Wisniewski, Il doit répondre de plusieurs millions déposés en liquide au Luxembourg en garantie d'un prêt officiel trouvé dans les comptes de son parti. Il prend son siège, le retourne et nous offre son dos. Nous ne voyons que la face vaguement confuse de ses défenseurs, ses épaules, sa nuque au poil ras. Il se tait, il ouvre un livre de Saint John Perse. Il sortira mis en examen. Il sera condamné à 10 mois de prison avec sursis. Aujourd'hui, il écrit des livres. Il y a le comédien. Lorsque la brigade financière se présente chez lui, rue des Saints-Pères, pour une perquisition, Bernard Tapie saute sur une malle posée devant une fenêtre ouverte. Il crie « Les fascistes m'agressent !» et refuse de s'habiller. Le chef de la brigade, embêté, ne sachant pas s'il doit recourir aux menottes face à cette résistance, m'appelle. Je lui ai dit « Même en caleçon, vous me l'amenez !» Il veut le rapport de force. Il l'a. Immédiatement après, j'appelle son avocat et lui demande de convaincre son client de laisser travailler la brigade. Bernard Tapie a fini par se calmer. Il est arrivé dans mon bureau en ayant très peur que je l'incarcère. Il avait une forme de gentillesse et d'humour dont il fallait se méfier. Mais il réfléchissait à trop court terme et finissait par jeter les cartes. Je n'ai jamais eu l'intention de le mettre en prison. Je l'ai simplement placé sous contrôle judiciaire. Il est réellement devenu comédien, mettant à profit son talent. Il y a l'ancien combattant, ou plutôt son fils, Jean-François Pagès, alors directeur des affaires immobilières d'Elfe. Sa tâche consiste surtout à s'occuper des propriétés de Loïc Le Floch-Préjean, son patron, et de celui d'Alfred Sirven, gestionnaire de la Caisse Noire. Il a un train de vie qu'il ne peut justifier. Les seuls intérêts du prêt immobilier qu'il prétend avoir contracté pour sa maison dépassent son revenu disponible. À bout d'arguments, il finit par me dire « Comprenez, madame, j'ai eu un prêt extrêmement avantageux parce que mon père était dans le maquis avec un administrateur de la banque. » Nous cherchons ensemble la vérité sur contre-histoire avec une super juge, têtue et courageuse, dans notre affaire à tous. L'héroïsme de la résistance est censé résonner en moi. Au bout de 5 ans, nous avons trouvé ces comptes suisses alimentés par la Caisse Noire d'Elfe à hauteur de 10 millions de francs. Il y a le fils qui fait mentir sa vieille mère. Alors que nous l'interrogeons sur l'argent qui lui a permis d'acheter sa maison des Genettes, Loïc Le Floch-Préjean nous explique que sa mère lui a apporté de l'or pour une valeur de 1 million de francs. Qu'à cela ne tienne, j'envoie la brigade financière interroger la mère, veuve d'un médecin militaire. Elle raconte qu'elle a pris un train de Bretagne, acheté quelques lingots d'or à Paris et les a remis à son fils. Le policier lui demande alors comment elle a transporté les lingots. « Dans mon sac à main ?» répond-elle. 1 million équivaut à l'époque à une 15 kilos de lingots. Pauvre femme, croulant sous le poids de l'or. Le fils évoque ainsi son héritage. Il explique l'arrivée sur son compte d'une somme de 300 000 francs par la vente aux enchères d'un tapis, légué par son père. Son avocat vient même dans mon bureau et produit le bordereau de la vente. Je lui dis « Ça sent le faux. Vous êtes inconscient de me le déposer. » Il suffit alors de lire les mesures du tapis sur le document, de les comparer à celles de la maison parentale, pour comprendre que le tapis n'entre dans aucune de ces pièces. La vente fictive a permis de découvrir une caisse noire. le patron d'Elf a été condamné à 5 ans de prison. Mais il n'a pas purgé sa peine, en raison de sa santé. Il semble aller beaucoup mieux, puisqu'il conseille actuellement le président du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso. Il fait comme tant d'amis français de l'Afrique qui émargent chez les dictateurs.
Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière Saint-Juste comme une femme sous la burqa.
Il y a le médaillé, Alain Guillon, directeur d'exploitation chez Elf. Il arrive, incroyable d'arrogance, avec sa légion d'honneur à la boutonnière. Il veut tant qu'elle m'impressionne que je ne vois plus qu'elle. J'ai immédiatement envie de savoir qui l'a décorée. C'est François Mitterrand. Puis, picotement du pressentiment, je demande au bureau de la Légion d'honneur les dossiers de tous les mis en examen décorés. Je dois, pour les obtenir, menacer leur bureau de perquisition. Je réalise ainsi que pendant les affaires, les décorations continuent. Alain Guillon avait déclaré 375 000 francs de revenus annuels. Nous avions donc fixé une petite caution. Lorsque les policiers de la brigade financière se sont présentés chez lui, les choses sont allées très vite. Son fils leur a craché dessus. Un simple coup d'œil à son intérieur et à ses œuvres d'art a de toute façon suffi à établir l'évidence. Cet homme a énormément d'argent. Il camoufle sa fortune via des trusts et des rideaux bancaires. Il nous a fallu près de 5 ans pour en dénouer les fils. Mais nous l'avons prouvé. Il avait détourné 160 millions de francs, selon un schéma incroyablement sophistiqué. Un travail à plein temps. Il y a le parjure. Entré dans mon bureau avec une Bible, ce cadre de Elf a juré dessus, ainsi que sur la tête de ses enfants, qu'il n'avait jamais fait que servir la France. Tant de lamentations peuvent affaiblir la volonté d'aller plus loin. Nous avons presque eu envie de le croire. Et puis nous avons trouvé 45 millions de francs sur ses comptes, entre autres dépôts. Il en est un puissant qui est ressorti libre de mon bureau. Et je sais que l'on dit encore aujourd'hui que j'ai eu peur devant cet homme aux protections multiples. J'avais délivré un mandat d'amener contre lui qui tombait le jour de ses 70 ans. Mon intention était de le mettre en détention. J'avais devant moi une caisse noire et un personnage important. André Tarallo, directeur des hydrocarbures chez Elf, ami de Jacques Chirac. Il est pourtant ressorti libre de mon bureau. Peut-être parce qu'il est le seul qui n'ait pas nié l'évidence. Ce jour-là, il est calme. Ses avocats aussi. Il reconnaît, il explique, il plaide. À l'entendre, il gère des fonds appartenant à Omar Bongo pour financer une compagnie d'aviation et acheter des biens immobiliers. Il ajoute qu'il part le lendemain avec Philippe Jaffré, président d'Elf, pour l'Afrique, et que ce serait catastrophique pour l'entreprise qu'il ne soit pas là. Puis je décide, seul, contre l'avis du parquet, de faire confiance à Tarallo. Il est de tous ceux que j'ai eus en face de moi, le seul qui ait reconnu l'évidence. L'enquête est allée à son terme. En 2003, André Tarallo a été condamné à 4 ans de prison ferme et 2 millions d'euros d'amende. Écroué immédiatement. 2 mois après, il sortait pour raison médicale. En 2005, en appel, sa peine fut alourdie. Il fut condamné pour détournement de fonds publics à 7 ans de prison et à 2 millions d'euros d'amende. Sa santé lui a évité la prison. Mais, bizarrement, aussi l'amende. Elle n'a pas été acquittée. D'après la presse, le fisc ne l'aurait pas réclamée. et la confiscation de ses biens à qui, grâce à la corruption, n'a pas été demandée. Il y a Roland Dumas, le plus célèbre d'entre eux. Au début de l'affaire, lorsqu'il arrive au palais, il tente de désarçonner par la futilité. Il élude de manière badine. En perruque et redingote, il n'aurait pas fait une autre impression. Il est le plus mondain des hommes. Le 17 janvier 1998, lorsque nous nous sommes présentés chez lui à 7 heures du matin, quai Bourbon, pour une perquisition, il se montre calme et frais dans sa robe de chambre. Tout est beau, rien n'est clinquant. Roland Dumas nous raconte qu'il a même fait remesurer la fenêtre pour s'assurer qu'il s'agit bien là de l'ancien atelier du sculpteur Camille Claudel. C'est probablement la seule vérité qu'il nous ait dite ce jour-là. Nous tenons alors un tableau des événements au jour le jour pour valider notre hypothèse de travail, qui est fort simple. Elf, ne pouvant pas payer le ministre, paie sa maîtresse. L'un des comtes en Suisse de Christine de Viejoncourt s'appelle Aurore, Verlan de Roro, petit nom de Roland Dumas dans l'intimité. À chaque date où Christine de Viejoncourt retire de l'argent en Suisse, nous consultons l'agenda de Roland Dumas. Est-il à Genève le jour où elle sort 10 millions? Il est allé à l'opéra, a pris le train avec son chien. « Je vous enverrai la photo du chien, madame le juge. » Ainsi parle-t-il, de moins en moins calme. Il a été condamné à 6 mois ferme, puis relaxé en appel. Canal Sud 92.2. Merci d'écouter Contre-Histoire. Je suis dans un restaurant d'Oslo quand j'apprends la nouvelle. Blâmable, mais pas pénalement responsable, argumente l'arrêt de la cour d'appel. Tout est dit, des circonvolutions de la justice. Son dossier raconte circulation d'argent liquide, appartement, statuette, avantage en nature, recommandation, comme il disait, de ses interventions ministérielles dans les nominations internes à Elf. Roland Dumas ne jouissait pas simplement du système, mais il savait en jouer avec maîtrise. La justice l'a blanchi. Le fisc a été conciliant. Nous lui avions pourtant transmis des pièces signalant 10 millions de francs passés sur ses comptes en espèces. Roland Dumas nous avait expliqué que cet argent provenait d'honoraires d'avocats non déclarés aux impôts. Le fisc est autorisé à redresser sur 10 ans lorsque les faits sont découverts à l'occasion d'une affaire judiciaire. Roland Dumas a cependant été redressé à minima, seulement sur les dernières années, profitant, toujours chanceux, d'une circulaire opportune. Il n'a subi qu'une condamnation. L'année dernière, la cour d'appel décida d'une peine de 12 mois de prison avec sursis dans l'affaire de la succession du sculpteur Giacometti. Avocat de la veuve, puis exécuteur testamentaire, il a permis au commissaire-priseur Jacques Tajan de garder une partie des 6,5 millions d'euros de la vente organisée pour régler les frais de succession. Il avait perçu de la part de Tajan 2,5 millions de francs. Pour avoir lancé ce dossier au début de mon enquête, je savais à quoi m'en tenir. Tout le monde sait quel homme il est, mais on hausse les épaules et on s'incline devant le raffinement de ce manipulateur. Machiavel était donc un prince.
Dame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Des femmes m'ont mené à Roland Dumas. Elles ne sont pas dans la galerie des invulnérables. Je les installe ailleurs. Elles sont des épouses, des maîtresses, des courtisanes, des complices, des messagères. Elles m'ont aidée volontairement, ou pas, plus fragile finalement dans ce genre d'épreuve. Les femmes et les hommes ont des quartiers distincts dans les palais et les prisons, dans cette affaire aussi. Je ne dis pas qu'il ait des maladies sexuées. L'appât du gain est une chose bien partagée. Mais à ce niveau de la République, l'abus de pouvoir est aussi masculin que le pouvoir lui-même. Prenez Colette, nom du comte en Suisse d'André Tarallo, et aussi prénom de son épouse. Lorsque le couple regagnait sa villa corse de milliardaire, Colette écutait les haricots verts dans l'avion affrété par Elfe. Il y a bien sûr Christine de Vieux-Joncourt, autoproclamée putain de la République. Le patron de la DST nous dit « J'ai prévenu Roland Dumas. Attention, tout Paris bruisse. On dit que ta maîtresse a un appartement payé par Elfe. » De Vieux-Joncourt mène à Dumas. Elle se fait un plaisir de l'habiller et de le conseiller. Nous épluchons son relevé de carte bleue professionnelle. Les grands magasins y apparaissent régulièrement, mais sans que jamais soit précisé si les achats sont pour elle ou pour lui. Quand j'ai vu Berluti, chaussures sur mesure, j'ai suivi mon instinct. Je sais que les femmes préféreront toujours empiler les paires dans un placard, plutôt que de se ruiner pour du sur-mesure. Je décide donc d'une perquisition chez Berluti. Là, nous trouvons l'affiche du pied de Roland Dumas et le règlement effectué par la carte bleue Elf. Ce n'est encore qu'un détail, peut-être, mais une forte présomption d'abus de biens sociaux. J'ai eu très peur d'être ridiculisée sur cette histoire. En fait, elle est restée et a frappé l'opinion. Des années plus tard, je n'étais plus magistrate. Je revenais de Paris pour fêter Noël à Oslo par un vol low cost. J'ai dû m'asseoir dans un bus bondé à côté de Madame de Vieux-Joncourt. Nous avions toutes deux des bagages et des sacs pleins de cadeaux. Le trajet de l'aéroport de Paris jusqu'à Beauvais me parut interminable. Elle m'entreprit, réécrivant une nouvelle fois l'histoire. Je l'écoutais vaguement, pressée d'arriver, amusée par nos paquets respectifs, penchant féminin qui m'avait naguère permis de la confondre. Canal Sud 92.2. Merci d'écouter Contre-Histoire. Naed Hodje est venue un soir, assez tard, dans mon bureau. Elle est la veuve d'Akram Hodje, richissime marchand d'armes, et aussi la fille de Mustapha Tlas, puissant de Syrie. À Paris, elle est une femme influente, riche mécène qui tient table ouverte pour les plus gradés des finances, de la politique et des médias. Elle a partagé la vie d'écrivain et d'un directeur de journal. On se presse chez elle. 46 ans, riche, cultivée et vive, qui fut pour certains la plus belle femme du Moyen-Orient. Je l'ai d'abord regardée comme une femme en regard d'une autre. Elle n'est qu'élégance et raffinement. Avec son pull noir, ras du cou, elle a l'air d'une étudiante des beaux quartiers. Elle connaît très bien Roland Dumas. Elle semble soulagée d'être là. Elle vient me parler du scanner de l'hôpital de Sarlat. Il y a un mystère sur le financement de cet équipement médical dans la ville dirigée par l'ex-mari de Christine de Vieux-Joncourt, au cœur de la circonscription de Roland Dumas. Et nous cherchons la destination des 10 millions de francs retirés sur un décompte de Christine de Vieux-Joncourt à Genève. Une lettre anonyme nous avait indiqué que le scanner avait été financé par Elf. Naed Hodje raconte que Roland Dumas lui a demandé de faire une attestation selon laquelle sa fondation a payé le scanner. Il ne voulait pas qu'elle paye juste le faux document. Elle me raconte aussi une histoire de mosaïque datant du 5e siècle, que Roland Dumas avait repérée chez elle alors qu'elle venait d'être livrée. Il les trouvait fort belles. À cette époque-là, il insistait beaucoup pour être l'avocat de la succession de son mari, doté d'une fortune colossale. Mais elle refusait, disant qu'elle ne voyait pas comment, étant ministre, il pouvait être son avocat. En revanche, elle proposa de lui offrir l'une des mosaïques. Le lendemain, une voiture du Quai d'Orsay vint chez elle pour les récupérer toutes. Elle s'étonna et protesta, appela Roland Dumas, qui répondit que c'était pour une exposition au ministère. Selon elle, les mosaïques finirent chez lui.
Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette pioule, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité.
Fatima Belaïde, ex-femme de Loïc Le Floch-Prigent, disait toujours « les gens d'Elfes ». Elle les craignait. Elle redoutait qu'ils s'en prennent à elle, à son fils, pensant qu'elle en savait trop. Sa crainte était à la hauteur de la pression qu'elle exerçait sur eux pour le règlement de son divorce. Cette femme simple avait joué les femmes d'affaires. Elle avait marché main dans la main avec le PDG d'Elfes, très épris. Elle avait donc entendu beaucoup de choses qu'elle n'avait pas forcément la capacité de comprendre. Je me revois perquisitionnée chez elle avec des policiers. Nous nous répartissons les pièces et les meubles comme d'habitude. On finit toujours par trouver quelque chose. Les gens veulent jouir de leur argent, il n'est jamais loin. Nous avons trouvé 30 000 francs en liquide dans le tiroir d'une commode. Puis la facture d'un déménagement à Londres glissée dans une boîte à chaussures de la Pendrée. Cette facture nous amènera sur la piste de l'appartement, puis, après une longue enquête, à la principale caisse noire d'Elfes. L'instruction prouvera qu'elle a perçu 31 millions de francs d'Elfes après son divorce, en échange de son silence. Elle a été condamnée à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et à 1 million d'euros d'amende. Rien ne la destinait à devenir le centre d'un vaste scandale politico-financier. Anne-Rose Thiam m'a écrit de sa prison. Je suis une escroque, mais Le Floch est un escroc bien plus grand. Elle avait été condamnée pour escroquerie dans une autre affaire. Lorsqu'elle vit que le scandale autour d'Elfes enflait et que Le Floch était inquiété, elle eut soudain envie de donner un coup de main au juge. Je la fais venir. C'est une femme noire, immense et sublime, à la silhouette de Grace Jones. Selon elle, Le Floch l'a reçu dans son bureau de la tour Elfes, a ouvert le coffre derrière lui, lui a remis 150 000 francs en liquide. Elle a très vite dépensé l'argent. Mais gardez le petit mot envoyé par Le Floch. « Ma chérie, qu'as-tu fait des 15 plaques ?» Je me fais donc communiquer son dossier et en extrait les pièces intéressantes dont le petit mot signait Le Floch. Les avocats de Le Floch protestent. « Vous n'allez tout de même pas vous intéresser à ces détails. » « Bien sûr que je m'y suis intéressée. Je me moque de cette petite histoire. Je ne suis pas gardienne des mœurs. Je cherchais tous les circuits d'argent liquide. Autant de faisceaux de présomption pour la corruption. » L'argent est un fait. Une donnée aussi simple que la température qu'il fait ou la faim qui nous prend. Quand une enquête de police établit que les citernes d'Elfes viennent remplir gracieusement les cuves du château de M. Le Floch, c'est un détail, oui. Mais c'est le point d'accroche. le moment où s'inverse la charge de la preuve. La vie m'a appris les détails. Ce sont eux qui m'ont permis de trouver le point aveugle, cet endroit invisible pour les puissants, tant il est subalterne, laissé aux domestiques. L'entretien du jardin, l'approvisionnement de la maison, le règlement des chaussures, la vente d'un tapis, sont négligés par les invulnérables, qui n'oublient pas d'en jouir. L'argent, après tout, ne sert à rien dans une banque luxembourgeoise, il glisse dans leur vie, et leur maison parle depuis si longtemps. Le luxe n'est que la forme privatisée du faste. Et c'est toujours notre affaire à tous. Dans Contre-Histoire sur 92.2, Canal Sud. L'affaire Elf ressurgit dans ma vie comme un rhizome. J'avais rendez-vous avec Laurence Wyszynski. Elle entame sa 6e année à Chartres. L'immobilisme est désormais le prix de son audace passée à mes côtés. Elle m'a raconté les derniers vœux du barreau, les discours. Celui du 2e secrétaire était un vibrant hommage à Roland Dumas, que tout le monde a chaleureusement applaudi, y compris les magistrats. Ça, c'est Paris, qui n'a rien à envier à l'Italie de Berlusconi. Nous étions là toutes les deux, Laurence et moi, dans un petit café aux abords du palais, à la nuit tombante, amies liées pour toujours. Elle en quarantaine à Chartres. Et jadis, lorsque nous nous présentions toutes deux pour une perquisition, elle expliquait avec prestance notre présence, tandis que je mettais très légalement le pied dans la porte. Elle était ma diplomate, j'étais sa tête brûlée. Il lui arrivait de dire, après une journée difficile, « C'est no way pour les femmes », c'est-à-dire « en aucun cas pour les femmes ». On pourrait dire aussi « sans s'interdire ».« No way », c'était son expression. Elle ajoutait aussi parfois « c'est no way pour la justice ».
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Post-scriptum à ce chapitre des invulnérables. Afin de vérifier un détail de ce chapitre, j'ai appelé en 2007, début avril, un haut fonctionnaire que j'avais croisé durant l'enquête Elf. Nous avons échangé quelques mots de politesse et pris rendez-vous lors de mon prochain passage à Paris. J'étais en Bretagne pour finir ce récit lorsque j'ai reçu un appel d'une cabine sur mon portable norvégien. Mon interlocuteur me rappelait pour me raconter la mésaventure suivante. Quelques minutes après avoir raccroché, son téléphone a sonné. À sa grande surprise, au bout du fil, après un silence, il a entendu la fin de notre échange qui avait été enregistré. On l'avertissait ainsi qu'il valait mieux ne pas me revoir. Le message était clair. Le dossier Elf est encore sous surveillance. Ma ligne téléphonique en France est sur écoute et on veille toujours sur l'impunité. Merci Eva Jolie. La semaine prochaine, elle nous emmène en Afrique. Il y a longtemps que nous ne sommes pas allés en Afrique. Merci de votre écoute. À bientôt.